Brigade chimérique, alors peut-être que je peux soutenir que vous avez la brigade enquêtrice numéro 3 de ces Utopiales 2010, puisque depuis le début de l'après-midi, nous menons en 3 épisodes, c'est le troisième qui s'ouvre maintenant, une sorte d'enquête qui vient à temps pour le 10e anniversaire d'Utopial. C'est finalement ce meilleur des mondes dont on nous rebat les oreilles depuis l'origine des temps et l'origine de ce festival, bien entendu. Où est-il? Quels sont les chemins qui y mènent et quelle est sa nature? Et donc, nous essayons d'explorer ça à peu près méthodiquement. Premier épisode, c'était, au fond, puisque nous sommes capables de l'imaginer par nous-mêmes, en nous-mêmes, depuis l'origine de l'humanité, sommes-nous capables d'en trouver, par une simple réflexion, un raisonnement, les pistes, etc., et les réponses aux autres questions, nature et endroit? Ou pas, la réponse a été ben, pas trop, non, finalement. On peut faire des progrès sur soi-même, dans sa personnalité. On peut atteindre à l'ataraxie, c'est-à-dire une espèce d'insensibilité en épicurienne, en modérant ses appétits de jouissance. On peut le faire de façon, finalement, en réduisant aussi, en ramenant les choses à leur juste réalité. Et puis, on peut essayer aussi de se déconnecter de tout raisonnement et oublier tout ça. Et finalement, on vivra beaucoup mieux. Mais en même temps, ça n'est pas une réponse, parce qu'on a toujours ce même espoir en soi. Deuxième épisode, c'était est-ce qu'on peut essayer de suivre les progrès techniques et puis de trouver là des réponses. Là, la réponse était un peu plus positive. Pour faire court, oui, on a encore la possibilité de rêver et il faut regarder attentivement ce que les sciences et les techniques nous proposent, même s'il y a de rigoureuses catastrophes qui cheminent là, sur ces pas-là, il y a aussi des progrès à en attendre. Alors maintenant, troisième épisode, c'est est-ce que le meilleur des mondes peut résulter d'une aventure ou d'une entreprise ou d'un effort collectif? Et mesdames et messieurs, notre brigade, je vais vous la présenter maintenant. Il y a d'ailleurs deux hommes que je ne peux pas présenter parce qu'ils sont connus, archi-connus, très très connus. Je vais commencer par le premier et je vais finir par le second. Le premier, c'est celui qui est au centre du dispositif Norman Spinrad. Alors je vais juste dire de lui que l'enfant du Bronx qu'il est devenu un écrivain énorme, vous le connaissez. Et en tous les cas, pour aujourd'hui, ce que je vais retenir de lui, c'est que c'est probablement le seul qui ait posé dans son roman Deus Ex la question de savoir si un programme informatique peut avoir une âme. Et ça, ça m'intéresse beaucoup compte tenu de ce que nous cherchons en ce moment. À droite de votre dispositif, vous avez Hugo Bellagamba, qui est écrivain, bien entendu, qui écrit des utopies, des uchronies, des explorations spatiales, dont la nouvelle est en fait le format de prédilection, hein, si j'en crois ce que j'ai lu. Il est aussi essayiste, organisateur de colloques pour valoriser le patrimoine de la SF. Il est dans le civil, si je puis dire, maître de conférences en histoire du droit et des idées politiques. Et cette double qualité va nous être bien utile. Vous avez à sa droite, c'est-à-dire à gauche de lui pour vous, Jean-Michel Besnier, qui lui est professeur de philosophie à Paris-Sorbonne. Il est membre du Centre de recherche en épistémologie appliquée. C'est quelqu'un donc qui étudie l'origine logique, la valeur et la portée des sciences, c'est ça l'épistémologie. Il est membre du comité d'éthique du CNRS et de l'INRA, et c'est vous dire s'il pèse d'un poids dans son milieu. Et il est l'auteur de Demain les postes humains, et on va voir si c'est un effort collectif d'abord, et si c'est un effort collectif qui nous donne quelques pistes d'accès ou quelques chemins d'accès au monde meilleur. Et enfin, le dernier à vous présenter, que je ne peux pas vous présenter, c'est Roland Wagner. Moi, j'ai envie de dire, Roland, c'est un esprit libre et glouton. Voilà, ça résume tout, et vous allez voir qu'il va nous être très utile. N'est-ce pas? Ça vous va? Ok, alors, on va partir... finalement des grandes aventures humaines. Et je vais commencer par vous, Hugo Bellagamba. Est-ce que toutes ces grandes aventures humaines qui, au fond, été sous-tendu par cette recherche d'un monde meilleur pour soi ou qu'on imposerait aux autres, est-ce que ça nous donne des pistes sur le jugement qu'on peut porter sur ces aventures collectives? Et il y a la première aventure qui vous intéresse beaucoup, c'est les croisades. Les croisades, c'est une aventure collective. Et il y a toute une série de causes initiales que vous allez très rapidement nous rappeler pour nous remettre dans le bain. Jugez-nous les croisades, ou les premières en tous les cas, à l'aune de notre sujet de ce soir.
Wow. Alors, quelle question pour commencer?
Ça déménage.
Avant de parler des croisades, pour répondre sur le monde meilleur, donc participe-t-il d'une démarche collective? Avant de parler des croisades, il me semble que de toute façon, la question du monde meilleur, c'est la question d'une société meilleure. Et à mon sens, la science-fiction, dans la manière qu'elle a de puiser dans l'histoire de l'humanité sa matière première, est avant tout une littérature des sociétés. Et ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si Norman et Roland seront d'accord avec moi, mais il me semble que le personnage clé de la science-fiction, le personnage type de la science-fiction, c'est les sociétés. Et donc, quelque part, cet esprit collectif est inscrit au plus profond de la science-fiction. Je pense que la science-fiction nous donne des visions de sociétés alternatives, dans l'Uchronie, de sociétés en devenir ou en crise, dans l'anticipation, ou de sociétés étendues sur des milliers de parsecs dans le space opéra ou les empires galactiques ou autres. Donc déjà, on a dans la science-fiction une immense diversité des sociétés humaines et on a un laboratoire à notre disposition. Alors après, la question, c'est est-ce que la démarche et la recherche d'un monde meilleur est toujours collective? Le modèle des croisades montre effectivement qu'il s'agit d'un enjeu collectif. Alors sans vous refaire toute l'histoire de la croisade, je me suis intéressé à la croisade, parce que la croisade, c'est aussi l'expression à la fois d'une crise interne de l'Occident médiéval, et dès la première croisade, et c'est à la fois une crise interne de l'Occident médiéval et la tentative par cet Occident médiéval de formuler l'aspiration vers un monde meilleur. En gros, la mise en place de la féodalité, de la première féodalité entre le 9e et le 11e siècle, s'accompagne d'un grand nombre de désordres, avec une disparition de l'État centralisé, et une volonté de l'Église qui reste pratiquement la seule puissance supranationale, si on peut dire, c'est un anachronisme, mais la seule puissance au-delà des solidarités locales, à chercher à mettre en place un ordre. Et cette Église va chercher à faire tomber la pression féodale sur le monde occidental en formulant une aspiration et un but qui est la libération de la Terre Sainte et la libération du tombeau du Christ. Et l'idée, c'était, je pense, de formuler l'image d'un monde meilleur par le rachat des péchés des seigneurs féodaux occidentaux. Et ce rachat des péchés des seigneurs féodaux occidentaux devait en passer justement par un allègement de la pression, féodale sur le monde occidental. Donc,
mais quand on lit votre roman, on se dit qu'il y a quelque chose qui se grippe assez rapidement. C'est-à-dire que votre héros,
bien entendu,
se rend compte que tout ça, toutes ces nobles aspirations, tous ces rêves grandioses qu'on a fait miroiter aux yeux des pèlerins armés, parce qu'au fond c'est ça, ça se termine en sinistre massacre et en très belle oppression.
Bien
et
entendu.
Et en déni de toute différence.
Bien entendu. Et c'est même pas que ça se termine, c'est que c'est dès le départ.
C'est dès le départ. Comme
c'est dès le départ. Dès les premiers instants de la première croisade, mon personnage, mais avec beaucoup d'autres, se rend très rapidement compte que c'est pas du tout vers le monde meilleur qu'on va, que les intérêts sous-jacents sont des intérêts de puissance matérielle et de possession territoriale, et qu'en réalité, il ne s'agit pas du tout de fonder un monde meilleur, mais d'exporter le modèle féodal en terre d'Orient. Donc finalement, ce qu'on pourrait conclure de cette première croisade, avant même d'entrer dans l'Uchronie, puisque vous avez choisi ce sujet-là, c'est que formuler la recherche d'un monde meilleur, c'est parfois aussi poser le premier pavé vers un monde pire, en réalité, dans les mécanismes de mise en place.
Alors, vous, c'est un travail imaginaire. Jean-Michel Bessignel, vous, ce n'est pas un travail imaginaire, c'est un travail de prévisionniste presque, de quelqu'un qui observe le présent, toutes les mécaniques, toutes les pièces mécaniques qui se mettent en place, et puis qui nous dit dans un an, enfin déjà, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et qui annonce quelque chose qui est après l'humain. Donc votre réflexion, expliquez-nous comment est-ce que vous avez éprouvé, comment vous est venu le besoin de faire ce livre d'abord, et ensuite on va avancer.
Merci. Oui, moi ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les représentations. Les philosophes sont plutôt des spécialistes des représentations mentales que nous avons du monde, et ce qui m'intéresse prodigieusement aujourd'hui, ce sont les représentations que génèrent nos progrès techniques et scientifiques. Il y a un imaginaire de la science qui se développe dans le contrepoint même des progrès qu'on y réalise, et ce qui m'intéresse, c'est d'apercevoir que cet imaginaire contribue à orienter la science elle-même. Donc la science, dans son développement, sécrète un univers mental, et cet univers mental rétroagit sur les développements de la science. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve parmi les esprits qui anticipent les choses, qui traditionnellement auraient appartenu à la science-fiction, eh bien, on trouve des scientifiques qui sont encore des hommes de laboratoire et des hommes de paillasse. Dans le domaine qui m'a particulièrement intéressé, à savoir les utopies post-humaines, eh bien, il y a un bon nombre de scientifiques qui ont, je dirais, pignon sur science, parce qu'ils sont connus dans la communauté scientifique comme tout à fait crédibles et fiables. Donc c'est ça la chose nouvelle aujourd'hui, qui fait que la science-fiction, elle est, je crois, beaucoup moins littéraire qu'elle n'était et beaucoup plus en prise avec la science. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Alors à partir de là, essayons de répondre à la question que vous posez. Le monde meilleur sera-t-il une affaire collective ? Je dirais que là, si je m'en tiens aux représentations dominantes aujourd'hui dans la communauté scientifique qui féconde un petit peu la prospective, il y a un modèle qui prévaut, c'est le néo-darwinisme. Quand on essaie de penser le futur de l'espèce, on le fait avec les instruments de Darwin. Et ce qu'on retient, en tout cas minimalement, de Darwin, c'est que les espèces sont toujours le produit de variations qui ont concerné des individus et jamais, évidemment, des espèces. Il y a des variations infinitésimales qui affectent des organismes. Et ces variations, eh bien, elles vont correspondre aux pressions sélectives et vont devenir le fondement de l'évolution même de l'espèce. Autrement dit, et je ne me perds pas dans mon propos, ce que je veux dire par là, c'est que si on pense en termes de darwinisme, on pense forcément en termes d'individus, à tel point même que, du point de vue de Darwin, la notion d'espèce, elle n'a quasiment pas de sens si on entend par espèce la catégorie générique qui rassemblerait des individus. Ça n'est pas l'unité de base, l'espèce. Quand Darwin a écrit l'origine des espèces, c'était aussi une manière de déconstruire le concept d'espèce, en montrant que finalement, l'espèce, elle est d'abord et avant tout composée d'individus. Donc,
l'individu, pardonnez-moi, soumis à un milieu, à ses pressions,
bien sûr,
et donc qui sont sélectionnés, dont les caractéristiques sont influencées et sélectionnées par le milieu.
Les individus sont porteurs de variations. Voilà. Et ces variations, elles vont produire des mutations.
Alors, qu'est-ce que ces néo-darwinistes observent dans notre monde actuel, et chez nous, en tous les cas, dans nos sociétés ?
Eh bien, bon, avec ces modèles néo-darwiniens, aujourd'hui, on en vient à considérer que le futur sera vraiment de l'ordre de l'individu. Ce que disent ces néo-darwiniens, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les sciences et les techniques qui constituent l'univers des pressions sélectives qui permettent de sélectionner les variations. Autrement dit, jusqu'à présent, c'était l'environnement naturel qui conditionnait les mécanismes de sélection.
Aujourd'hui, et là, c'est l'environnement technologique.
C'est l'environnement technologique. Et c'est ça le phénomène nouveau et profondément déconcertant. De sorte qu'aujourd'hui, les sciences et les techniques, si elles sont bien des aventures collectives, elles produisent néanmoins des effets de fracture, parce qu'elles sélectionnent parmi les spécimens de l'humanité, ceux qui en bénéficieront. Très, très, très brutalement dit, on sait très bien que les technologies, aujourd'hui, elle crée de nouvelles fractures à l'intérieur des sociétés, à l'échelle de la planète. Hein, et quand on envisage un post-humanisme, la plupart du temps, c'est pour dire que ce post-humanisme, eh bien, il sera composé d'une post-humanité qui sera nantie parce qu'elle profitera des avantages des sciences et des techniques, et puis il y aura l'humanité qui restera sur le carreau parce qu'elle n'en profitera pas. Hein. Donc ça, c'est important.
Pour autant, il n'y aura pas, comment dire, de modification de son essence humaine, physiologique,
profondément,
métabolique, etc.
Si, vraisemblablement. Si vous imaginez que dans un avenir proche, il y aura parmi nous de plus en plus de cyborgs, hein, bon, c'est-à-dire d'êtres humains
hybrides.
Qui seront hybrides, qui contiendront en eux des dispositifs électroniques.
Un port USB.
Voilà, des puces RFID, etc. Hein. Bon, de ce point de vue-là, l'idée même d'identifier l'humanité par des critères morphologiques, ça n'aura plus de sens. La notion d'essence humaine n'aura décidément plus aucune signification. Nous serons des processus dotés d'attributs...
Y compris dans le domaine de la reproduction ?
Évidemment, parce que la reproduction, si ce qu'on nous promet advient d'ici 20 ou 30 ans, la pratique de l'ectogénèse, par exemple, donc de l'utérus artificiel, ou la pratique du clonage, rendra l'humanité encore un peu plus hétérogène. Il y aura ceux qui auront été le résultat du hasard, hein, du hasard de la rencontre de spermatozoïdes et d'ovocytes. Et puis, il y aura ceux qui auront été fabriqués, délibérément fabriqués, et qui l'auront été par transgénèse s'ils sont des clones, ou qui l'auront été par ectogénèse.
Et qui seront le résultat d'une nécessité, cette fois, pour reprendre le fameux balancement de Jacob.
Absolument. Ils ne seront plus le produit du hasard, mais le produit d'une nécessité. Hein, et c'est l'un des fantasmes dominant dans le post-humanisme, que enfin nous soyons débarrassés du hasard et que nous soyons des produits de la nécessité. Mais enfin, ça c'est déjà aujourd'hui. Regardez les biotechnologies médicales, les Français qui s'adressent aux biotechnologies médicales, c'est précisément pour conjurer le hasard. On veut du diagnostic préimplantatoire, on veut de la détermination, on veut ne plus courir de risques en enfantant, etc. Donc on est déjà là-dedans. Hein. Donc le phénomène va simplement s'amplifier et concerner sans doute encore pendant longtemps une fraction privilégiée de l'humanité.
Alors cette fraction d'humanité qui va demeurer, ces fragments d'humains qui vont persister dans les êtres que vous décrivez, est-ce qu'ils auront une âme ? Est-ce qu'ils auront une âme pleine, et vous comprenez bien que je suis vers une transition là, qui aspirerait encore à un monde meilleur ou pas, en se disant le monde meilleur, voilà, il est advenu.
Vous savez, le problème de l'âme, on peut le régler facilement. Hein. Il y a des sciences pour ça. Hein. La neurobiologie s'annonce comme capable de réguler et de modifier vos humeurs à volonté. Hein, donc si vous associez l'âme simplement à l'aspiration au plaisir ou au bonheur, la fabrication du plaisir et du bonheur est dans l'ordre des choses si, encore une fois, on se confie au développement débridé de disciplines comme la neurobiologie.
Alors, par le biais de substances chimiques qui seraient consommées, oui. Par d'autres biais
Par l'action à distance qu'on pourra exercer grâce à des puces RFID, par exemple. Donc on songe déjà à se servir de ce genre de dispositif, hein, des implants électroniques qui réguleraient les neurotransmetteurs et qui permettraient à la personne qui aurait une tendance suicidaire à un moment donné
de ne pas y succomber.
D'émettre un signal qui serait reçu et qui permettrait la régulation à distance. Ça, ce sont des choses qui sont pratiquement réalisées.
C'est la fin de l'âme alors du coup ?
Je ne suis pas sûr que j'ai jamais mis quelque chose sous le terme d'âme. Hein, vous me pardonnerez. Là,
bon. Non, mais c'est tout simplement pour en arriver à Norman. Alors, Norman, je vous vois dans votre fauteuil, pas très satisfait de ce que vous entendez, lever presque les yeux au ciel, ce qui n'est pas trop dans votre nature. Mais enfin bon, comment vous entendez tout ça, vous ?
Ça c'est l'avenir scientifique. Mais pour... J'ai la question pour, dans l'enfant de fortune, Je voudrais imaginer une société 3000, 4000, 10 000 à l'avenir humain. Pas de question de technologie, avec toute la technologie, tout ça, en société qui marche plus bien. Très baroque, qui n'est perdu toute la connaissance de notre époque et toute l'autre époque. Et je crée une espèce de demi-utopie, peut-être. Et quelques années après, j'ai la réalisation. J'écris tout ça en grand détail. Et tout le culture existe et tout ça, mais sans un gouvernement. Pas de gouvernement. Rien du tout. Pas de nationalité. Pas de gouvernement. Pas du tout. Et quand j'écris Blue comme un orange, je réfléchis de ça. Ça, c'est appui de la chute du communisme, de l'Union soviétique. Ça, c'est la chute en forme de socialisme marxiste. Mais je crois, je réfléchis que, oh, OK, c'est Marx, c'est Marx, mais le capitalisme, c'est peut-être ça ne marche pas aussi. Et je voudrais imaginer un système qui marche mieux, c'est pas une utopie, mieux comme notre système, notre culture, notre économie, mais pas une utopie. Une chose qui marche mieux après le problème avec le réchauffage et tout ça, le problème existe encore, mais nous avons une évolution morale. Et à mon avis, ça c'est vachement plus important pour faire un monde mieux. C'est un monde mieux humain dans le sens moral. Ça, c'est la chose, à mon avis, plus importante comme le reste. Et je vais réfléchir après. Je sais, OK, c'est un système de... C'est nécessaire un marché libre, mais pas de capitalisme. En forme de... Après, je fais le titre de ça, mais quand j'écris, j'ai créé un système et je réalisais, après, ça c'est une forme d'anarchisme. Anarchisme syndicaliste, c'est un paradoxe, un anarchisme avec un certain ordre, qui c'est une économie de marché, mais pas avec le globalisation, le système de globalisation capitaliste qui nous avons maintenant. Et après, tout ça fait le chute dans la dernière année. Et je crois que...
La part d'anarchie, elle y était.
C'est
la part d'anarchie.
Oui, et donc... Mais pas avec une bombe et tout ça. Ça, c'est l'idée d'anarchisme comme un cartoon, comme un bande dessinée, you know, comme un bande dessinée.
Oui.
Mais un anarchisme, en un sens...
Là, vous avez tous compris, il parle d'anarchisme.
Anarchisme.
Hein. Il le prononce à l'américaine,
d'accord.
C'est compliqué par
okay.
moment.
mais le point de cette forme d'anarchisme, est, c'est pas nécessaire un gouvernement. Et même si ce n'est pas communisme aussi, c'est une forme de société qui toutes les personnes qui travaillent pour une entreprise, ça c'est l'entreprise de là. Ce n'est pas une chose avec la bourse, tout ça n'existe pas. Et c'est une forme d'anarchisme syndicaliste organisé par la terre plus haut et pas par le gouvernement là-bas. Et avec ça, ce n'est pas nécessaire un gouvernement.
D'accord. Ce n'est pas un roman que vous nous décrivez là. C'est une véritable idée pour améliorer les choses.
Non, j'écris le roman.
Bon, d'accord.
Non, c'est le roman.
OK.
C'est en anglais, c'est Greenhouse Summer.
D'accord.
En français, c'est Blue comme un orange.
D'accord.
Et c'est Roland qui a fait la traduction de ça.
On l'applaudit, Roland.
Non, c'est un roman qui existe.
Oui, bien sûr. Non, mais c'était pour vous faire préciser. Ouh, dites donc, si vous articulez comme un Américain, c'est difficile, normalement.
Non, c'est pas trop américain, ça.
Non, je sais bien. Alors, simplement, il y a quelque chose qui est frappant dans ce que vous venez de dire. C'est que cette utopie qui a été le marxisme, enfin bon, s'est effondré. Ce capitalisme, il est susceptible à tout moment de s'effondrer, d'imploser, quitte à rebondir, etc. Et vous êtes en quête, vous l'avez écrit dans Bleu comme une orange, un autre système. Mais tous ces systèmes qui veulent s'imposer comme fonctionnels et améliorant les choses sont à un moment vérolés de l'intérieur, si je puis dire. Et il y a un moment où quelque chose ne va pas. Et est-ce que, quand vous avez entendu Jean-Michel Besnier nous parler du post-humain, il n'y a pas là-dedans aussi quelque chose qui va gripper, qui va faire que ça ne va pas devenir aussi sombre qu'il semble le décrire?
Ok, j'ai écrit cette question dans Deus Ex. Et c'est simplement ça. Si vous avez la possibilité technologique de faire un download ou upload de votre pattern de conscience dans un ordinateur, hein, vous avez ipso facto la possibilité de faire un backup, un deuxième backup, un troisième, par infinité. Ok, so, quel exemple avez-vous? Quel exemple avez-vous? Tout, rien, ça c'est la question de l'année. C'est une vraie question scientifique. Si on fait un, on fait deux, on fait trois, on fait quatre.
Mais quand il y a une licence, on ne peut en faire qu'un ou deux, trois maximum. Il y a des licences Microsoft, trois maximum.
Non, une infinité de ça.
Oui, bien entendu.
Et c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le vrai conscience humaine? C'est un pattern de connaissance et mémoire, et ça c'est tout.
Sensibilité, si c'est ça, sensibilité, sensation,
oui, mais
petite Madeleine de Proust, etc., etc.
Et peut-être
plein de choses.
Peut-être le corps aussi.
Aussi.
C'est une question très, très profonde, mais c'est un paradoxe qui existe dans toute l'idée de faire un post-humanité dans un ordinateur. Si vous avez un exemple, vous avez la possibilité d'infinité de la même pattern de connaissance et mémoire. Où
gît la spécificité humaine?
Oui, oui.
Unité par unité.
Parce que l'essence de l'humain, de nous, à mon avis, c'est pas le fond de le corps, c'est pas la mémoire, c'est la conscience. Et qu'est-ce que c'est ça?
Cette conscience, mais qui est malgré tout influencée par la mémoire, la sensibilité, etc.
Oui, oui.
C'est une conscience particulièrement formatée et uniquement formatée. C'est comme ça qu'on peut le concevoir.
Unique. Mais si vous avez quelques exemples de la même mémoire et le même pattern de conscience, où est-vous? Ça, c'est la question profonde de toute l'idée de post-humanité, cyborgé ou choses comme ça. Si vous avez la possibilité de faire un, vous avez la possibilité de faire beaucoup. Et l'année, à le sens métaphysique, existe ou non? Et s'il existe, c'est quoi?
Bonne question. On va continuer à y répondre. Vous passez votre micro à votre traducteur et puis on va faire un petit ripage des micros pour qu'on ait plus de mouvement après. Alors, Roland, dans votre œuvre, quelles sont les parties auxquelles vous songez qui sont en écho, en résonance, en vibration avec notre préoccupation de ce soir? Et à l'instar de Norman, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez senti, vous, quand vous avez écrit ces éléments ou ces fragments d'œuvre-là.
Quand j'ai commencé à faire les futurs mystères de Paris, donc c'était dans les années 90, L'idée au départ était de... Enfin, j'entendais autour de moi sans arrêt des gens qui disaient « Ah, la science-fiction française, c'est noir, c'est triste, ah, c'est sinistre, ah, c'est violent, ah, c'est malsain. » Pas exagéré, tout n'est pas comme ça, mais c'est vrai que allez, quand on regardait, on se rendait compte qu'il y avait quand même une certaine noirceur et un certain pessimisme, inscrit d'ailleurs dans la science-fiction française depuis très longtemps. Et donc, moi, je me suis dit, bah tiens, pour une fois, je vais faire le contraire, je vais faire un futur qui marche. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que faire des futurs qui se déglinguent, c'est facile. Il suffit de prendre un point et de faire qu'il se déglingue, et après, tout tombe. Mais un futur qui marche, il faut qu'il n'y ait rien qui se déglingue. Ouais, c'est vachement plus difficile.
Il y a une logique du déglingage, alors qu'il n'y a pas de logique de la, de la pérennité.
Non, c'est sûr.
C'est du caractère radieux.
Non, mais je ne sais plus qui c'est qui disait ça pour un mariage réussi ou un mariage raté. C'était qu'il suffisait d'une raison, d'un truc qui ne colle pas pour que le mariage s'effondre. Et là, c'est pareil, en fait, d'une certaine manière. Donc, quand on commence à construire un monde futur, on trouve beaucoup plus facilement des endroits où le monde pourrait s'effondrer, ou en tout cas où il pourrait y avoir des problèmes. Je veux dire, des avenirs où en 2050, 2100, la planète est entièrement ravagée par des guerres climatiques. Moi, j'en fais 10 tous les matins, les doigts dans le nez. C'est super facile, ce genre de truc. Enfin, personnellement, je trouve... Je ne dis pas les écrire, je parle de les imaginer. Oui. Par contre, arriver à imaginer un monde qui... avenir entre guillemets meilleur et qui fonctionne et où ce que j'appelle meilleur, c'est-à-dire que il y a dans ce monde plus de gens qui vivent d'une manière correcte qu'il y en a aujourd'hui dans notre monde. C'est ça ce que j'appelle un monde meilleur. Ça va pas plus loin. Je suis parti de ce principe. Il y a quand même, appelons ça un déterminant moral. C'est-à-dire essayer d'aller vers quelque chose, disons, entre guillemets, de positif. Et bah, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que, déjà, pour arriver à situer des intrigues dans un monde où, par exemple, il y a moins d'homicides et que le personnage principal est un détective privé, ça pose un problème. C'est très difficile de développer des méchants crédibles dans un monde qui va mieux. Or, la littérature populaire a besoin de méchants. Mais... Au bout d'un moment, 2, 3, 4 volumes, et le temps que ça se mette en route et que l'univers soit bien en place et tout ça, je me suis rendu compte de quelque chose que je suis totalement incapable de détailler, mais qui est que la manière dont les personnages pensent dans la série, donc des personnages, des gens vivant dans un monde meilleur et pacifié par rapport au nôtre, eh ben, ils pensent plus comme nous. Alors, je ne sais pas si c'est des post-humains, parce que pour la plupart, ils ne sont pas du tout améliorés, ni cyborgisés, ni quoi que ce soit. Bon, il y a des mutants, mais ça, c'est un vieux thème de SF. Mais ce qui est clair, c'est que leur manière de voir le monde n'est pas la même que la nôtre, et que... j'écris pas pour transmettre des messages, mais c'est clair que dans l'un des volumes de la série, il y a un personnage... qui repense à l'époque où les gens ils avaient peur tout le temps quand ils prenaient le métro, quand ils prenaient leur voiture, quand ils allaient acheter à manger. Et puis je ne sais plus quelle est la scène, mais elle, c'est du genre un strimballe à 2h du matin dans une rue de ville sinistre ou un truc comme ça. C'est-à-dire, là, on voit vraiment le décalage, c'est-à-dire que dans une situation où il y aurait normalement un phénomène d'indifférence ou d'angoisse, là, au contraire, on a quelqu'un qui est très à l'aise alors qu'il ne devrait pas l'être. Et bon... Pour en arriver, c'est là que je voulais en arriver, cette histoire d'individuel ou de collectif, est-ce qu'on peut faire des mondes meilleurs? Est-ce qu'il faut que pour faire des mondes meilleurs, il faut que ça soit collectif? Moi, je sais pas, j'ai du mal à m'organiser avec des gens, j'ai du mal à faire des actions collectives et tout ça, et j'évite un maximum. Mais ce qui me paraît clair, c'est que, étant donné la situation géopolitique, climatique actuelle, la seule solution qu'il pourrait y avoir pour aller vers un monde vraiment meilleur... Et ce que j'appelle un monde vraiment meilleur, c'est celui où les gens en Afrique, ils ne sont pas en train de crever la dalle avec des types qui leur tirent dessus. Ça peut être qu'une solution collective. Et quand je dis collective, ça veut dire que les gens qui essayent de maintenir le monde dans la trajectoire dans laquelle il est actuellement, c'est-à-dire avec des guerres qui éclatent sporadiquement ou de moins en moins sporadiquement et qui permettent à des gens de se faire des paquets de pognon absolument monstrueux que nous tous, avec ce qu'ils gagnent en un an, on vivrait toute notre vie. Je veux dire, eux, ils sont organisés. Les marchands d'armes sont organisés. Les gens, les fauteurs de guerre sont organisés. Donc, si on veut arriver à améliorer le monde, il faut des organisations, des contre-pouvoirs.
Alors, Jean-Michel Besnier, les deux auteurs qui sont à votre droite ont tous les deux, à un moment, utilisé le vocable moral. Est-ce que la morale ou la conception morale est, puisque vous êtes membre d'un comité d'éthique, est un des moyens d'infléchir véritablement ce qui peut prendre des proportions épouvantables et finalement se substituer à ce principe de précaution qu'on évoquait dans l'épisode numéro 2 de notre brigade d'enquête.
Une conception morale, c'est toujours une conception qui définit un devoir-être.
Est-ce que ça peut être collectif, ça, ou est-ce que c'est strictement individuel, ou est-ce que c'est...
La morale est plus facilement que l'éthique de l'ordre de l'universel.
D'accord.
Dans les questions de morale, on se pose toujours la question de l'universalisation de ce que l'on fait. Et si tout le monde faisait comme moi, que serait le monde si tout le monde faisait comme moi? Ça, c'est la question basique pour la morale. Alors que l'éthique, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'éthique, elle se pose la question de savoir comment bien vivre dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.
C'est individualisation.
C'est une question qui pose la question du bien à suivre, à assumer, alors que la morale est toujours de l'ordre quand même de l'interdit. Tu ne dois pas faire ou tu dois faire. L'éthique, non, c'est le bien
alors,
vivre.
Au même titre que vous observez ces évolutions technologiques qui nous amènent au post-humain, est-ce que vous observez aussi... Alors, je dirais parallèlement ou différemment ailleurs, ou d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui ressemblerait à des préoccupations morales, à un approfondissement moral, à des préoccupations de cette nature-là.
Non, je ne suis pas persuadé que nous soyons plus moraux, si c'est ça que vous voulez me demander, que oui. Ne l'étaient nos prédécesseurs.
Le développement des organisations non gouvernementales...
Il y a une prise de conscience sur la base d'impératifs qui sont de l'ordre de l'utilitarisme ou du conséquentialisme, comme on dit chez les philosophes. Cette espèce de prise de conscience collective, elle est facilement déjouée. Regardez la question, les préoccupations concernant le climat. Moi, la grande question philosophique que me pose, quant à moi, les questions climatiques, c'est la question de l'intergénérationnel. Qu'est-ce qui pourrait bien me contraindre à limiter mon bien-être contemporain pour dans 100 ans. Dans 100 ans, rien. Je peux me projeter dans mes petits-enfants, dans mes arrière-petits-enfants, j'irai pas beaucoup plus loin. Donc la question de l'universalisation des maximes de mon action d'aujourd'hui, portée à l'échelle d'un siècle, c'est voué à l'échec. Par contre, je peux sensibiliser les gens à l'idée que ici maintenant, il peut être plus agréable, je dis bien, de vivre sans la fuite en avant, sans l'hyperactivisme de la société stressante dans laquelle on vit, sans un appétit de consommation débridé, etc. Là, on est dans l'ordre de choses éthiques, et la sensibilisation à l'éthique, eh bien, elle emprunte toujours la petite porte, le petit bout. Pour ça, je vous entendais tout à l'heure dire à propos du futur. Le futur, vous voulez un futur qui soit meilleur, qui soit de l'ordre de la stabilité ou de l'équilibre. Je dis non, c'est pas quelque chose qui est possible à des hommes. Les hommes, ils ne peuvent avoir qu'un monde médiocre, mais pas un monde meilleur, parce que ils sont petits. Ils sont pleins de défauts et ils sont pleins de donc. Il faut jouer petit. C'est plutôt dans l'ordre des micro-actions qu'on peut avoir une influence sur la totalité. Les micro-actions.
Alors, je vous trouve quand même pessimiste parce qu'une petite fille qui naît à l'instant, c'est déjà une perspective de pas loin d'un siècle. Les filles, c'est très tenace. Hugo, prenez donc un micro. Alors, pour historien des idées politiques que vous soyez, vous en vous continuez malgré tout à regarder ce qui se passe en ce moment. Et donc, quand on est historien des idées politiques, on pense aussi à l'opinion publique. Comment vous réagissez par rapport aux propos de Jean-Michel Bessignat? Est-ce que vous êtes complètement d'accord? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez des linéaments, vous observez des linéaments de... au travers de, des préoccupations écologiques, des, peut-être même des modes de, sur des économies, sur les énergies ou des énergies nouvelles. Qu'est-ce que vous voyez apparaître ?
Je suis en total désaccord, en fait. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire
alors,
que je pense
fortement.
Que pour moi, la clé du monde meilleur, elle est plus que jamais collective et elle est plus que jamais politique. Et je ne vois pas en quoi le fait que la technologie devienne aujourd'hui la clé et intègre la définition de l'humain, je ne vois pas en quoi ce fait-là rend la question moins politique. Ce que je vois à l'œuvre aujourd'hui, et ce que je vois à l'œuvre notamment chez mes étudiants, puisque chaque année je vois arriver des générations, enfin chaque année des étudiants différents, et vous parliez de représentation, et là par contre on est totalement d'accord, moi aussi je travaille sur les représentations, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie démocratie, citoyenneté, liberté, égalité, vote pour les nouvelles générations qui arrivent. Et je pense que la technologie change notre manière et notre façon de définir l'humain, mais que l'humain est avant tout un animal social, c'est ce que disait Aristote. L'homme est un animal social. À partir de là, ça reste plus collectif que jamais. Et ce que je vois dans les représentations, c'est qu'on on déplace le champ sémantique. Et qu'il y a des moments, à certains moments de l'évolution, on va arriver à ne plus pouvoir penser des alternatives. Et ces alternatives-là sont des alternatives politiques. Pour vous donner un exemple... précis. Par exemple, je discutais avec mes étudiants la semaine dernière, juste avant de... Même pas une semaine avant de venir ici, on parlait de l'économie de marché. Et je leur montrais, je leur faisais un historique de la mondialisation économique et de comment cette mondialisation économique entrait en conflit avec les systèmes de protection sociale nationaux. Comment les systèmes de sécurité sociale aujourd'hui étaient stigmatisés par la mondialisation économique et considérés comme un frein à l'activité, à la compétitivité. Et j'essayais de leur montrer que des solutions étaient possibles, pas simplement de déconstruction des systèmes de protection sociale, c'est-à-dire de descente ou de réduction des systèmes de protection sociale nationaux vers un système de type résiduel, c'est-à-dire libéral, qui est le système américain, purement assurantiel et privé, la marchandisation de la protection sociale. Je leur disais, pourquoi ne pas penser l'inverse ?
Il y a la TVA sociale déjà qui a été imaginée.
Voilà, mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas imaginer la constitution d'un fonds social international, destiné à la protection économique, à la protection sociale, à l'échelle mondiale. J'avais en face de moi un groupe de 30 étudiants, à peu près. Ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds, comme si j'étais un extraterrestre. Tous, hein. Et ils m'ont dit, mais monsieur, c'est totalement utopique.
Voilà un mot qui vous convenait bien.
Et je leur ai dit, comment ça? Pourquoi c'est totalement utopique? Parce que vous savez très bien que la mondialisation économique étant ce qu'elle est, on n'ira pas à l'encontre de cette mondialisation et la constitution d'un fonds social international est peu probable. Mais était peu probable aussi la création de l'Organisation internationale du travail au moment de après la Seconde Guerre mondiale, et pourtant ça s'est fait. Était peu probable la constitution de la SDN en 1919 avec les 14 points de Wilson, et ça s'est fait.
Malgré l'issue, et puis après
malgré
il y a
l'issue,
eu l'ONU.
Mais ça s'est
oui,
fait. Ce que je veux voilà. dire, c'est que aujourd'hui, l'un des enjeux, au-delà de la technologie et des postes humains, c'est de continuer à pouvoir penser en toute liberté, les alternatives, qu'elles soient économiques et politiques.
Le G20 était impensable il y a encore un an et demi.
Bien entendu.
Ah, voilà.
Bien entendu. Et cette clé-là, elle me semble essentielle.
Alors, quel est le ressort qui est en jeu, là? Parce que il est enthousiasmant. Hein, on l'écoute avec bonheur. On se dit, oh, enfin, une eau fraîche qui circule. Voilà. Et c'est le prof de droit qui parle. Bon, donc, voilà. C'est pas un doux rêveur. Quel est le ressort de l'histoire? Expliquez-nous où se situe le ressort. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette alternative apparaît? Est-ce que c'est parce qu'il y a des super-héros, comme on l'entendait le dire tout à l'heure, ou est-ce que parce qu'il y a un moment où les opinions avancent, poussent, sont prêtes tout... Bon, expliquez-nous.
Ah, je n'ai pas d'explication clé, mais je pense que le curseur d'une société est toujours en mouvement, en fait. Et que ça peut se déplacer très vite, il suffit d'une génération. Et ce curseur peut se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Et pour pouvoir continuer à le déplacer sur curseur, il faut garder la conscience de ce qui a été fait avant. C'est ce qu'on appelle la culture. Cette culture, elle peut être scientifique, elle peut être politique, elle peut être littéraire.
Générale.
Générale. Et la littérature et la science-fiction en fait partie. Je veux dire par là que... prenons la notion de liberté. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus la liberté comme on la concevait il y a 30 ans ou comme on la concevait encore il y a un siècle. Et pour avoir le souvenir de ce concept de liberté, il faut pouvoir se replonger dans la culture et notamment dans la culture politique. Et à mon sens, l'histoire des idées politiques est plus que jamais essentielle, même si, évidemment, ce n'est pas le seul déclencheur de la réflexion. Et cette histoire des idées politiques et cette culture, elle est collective. Ce que je regrette qu'on n'ait pas abordé dans cette table ronde, c'est la notion de constitution collective progressive par étapes. C'est-à-dire, finalement, notre manière de penser le monde meilleur aujourd'hui n'est-elle pas le résultat de toutes les manières de penser le monde meilleur des générations passées ?
Il y a une sédimentation là dont nous bénéficions.
Une accrétion.
Oui, une accrétion.
Et finalement, je crois qu'elle est là la question. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment pense-t-on le monde meilleur ? Et est-ce que la manière dont on passe le monde meilleur est le fruit de la manière dont, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui la fonction de l'utopie n'est pas aussi un héritage de toutes les utopies que l'on a imaginées ? Et le rapport à la science est crucial, mais pour dire un dernier mot, il n'y a pas dichotomie, il n'y a pas séparation entre l'utopie scientifique et l'utopie politique. Je vous rappelle que Francis Bacon, dans la Nouvelle Atlantide, on est au XVIIe siècle, au grand siècle, en 1623, si je ne me trompe pas, fait de la science la clé du bonheur de la cité, sans renoncer à l'organisation politique aussi. C'est-à-dire que c'est la science et le politique. Et la vraie question aujourd'hui, c'est quelle articulation entre la science et le politique ? Moi, je veux bien qu'on ait des post-humains, mais et la question politique derrière, si les humains deviennent des post-humains, est-ce que ça veut dire que la démocratie...
est une post-démocratie.
Est une post-démocratie ?
Alors, Jean-Michel.
Vous prenez un exemple avec l'île de Ben Salem de Bacon, mais ouais, qui est un exemple un peu biaisé, parce que en réalité, c'est pas la politique qui accompagne la science, c'est la morale. On a affaire à des sages. Hein. Ce sont des sages comme on rêverait d'en avoir aujourd'hui. Donc on parle pas, on s'exprime pas en termes de procédure organisationnelle. On est dans une manière de sainteté.
Hein, sur l'île de Ben Salem. Juste, je me permets, je suis d'accord, évidemment, bien sûr. Mais je me permets d'ajouter qu'il y a une politique scientifique à l'œuvre. L'État prend en charge, la Maison de Salomon est une institution étatique, et donc l'État prend en charge le développement de la connaissance scientifique, mais le développement de la technologie, c'est-à-dire de l'application de la science. Et donc il y a bien un lien entre qu'est-ce que l'État et que le fait l'État de la science.
Et oui, mais c'est ça qui rend évidemment la Nouvelle Atlantique assez archaïque. Hein. On est dans le top-down. Hein, et là, aujourd'hui, malheureusement, les politiques, face au développement technoscientifique, ils ne sont plus du tout aux commandes. Hein, ils ne sont plus du tout aux commandes. Vous les voyez très, très concrètement aller chercher, aller quêter de l'expertise auprès des scientifiques pour savoir comment décider. Hein, prenez les nanotechnologies aujourd'hui. Hein, parce
Alors,
que c'est un exemple.
Hugo Bellagamba, en fait, Jean-Michel Besnier, à son tour, émis le vocable de morale. Vous ne l'avez pas encore prononcé, vous. Vous avez parlé de culture. Il y a un tout petit dialogue là qui fait que finalement les sages, ce sont les gens cultivés. Cette sagesse qui permet d'avoir une posture morale, finalement, elle jaillit de la culture. Est-ce que vous pourriez adhérer à cette idée-là ou pas ? Parce que finalement, si on est sur un terrain collectif et que tous les quatre on est d'accord sur la morale, finalement, il y a un petit espoir qui demeure et on va bien conclure.
Je crois que le terrain d'entente, c'est de se dire que le scientifique participe d'une entreprise collective, même s'il reste un individu. Dans la maison de Salomon, on passe du savon au laborantin. Et le laborantin est un savant qui n'agit pas seul, mais qui agit pour le compte d'une communauté. Et peut-être la clé est là. Peut-être que cette individualisation-là du savoir...
Agir pour le compte d'une communauté.
Je dirais ça, je pense. Ouais.
Se sentir assez intégré dans cette communauté pour agir à son profit. C'est ça la clé ?
Peut-être.
C'est ça le monde meilleur, messieurs les écrivains ? Est-ce que c'est ça ?
C'est une nouvelle chose dans la relation de la science et la loi et la culture pendant 50 années après Hiroshima, c'est l'idée que les choses que c'est possible en faire au niveau technologique, au niveau scientifique, mais la question, on fait ça ou non? Par exemple, nous avons pour plus d'un demi-siècle le bombe atomique et ce n'est pas utilisé. Même avec l'idée de post-humanité, même par exemple l'idée de Werner Vinge avec la singularité, qui c'est le dernier, l'ultimate tool de toute l'idée de post-humanité, qui de la confluence de toutes les technologies et ça, créer de.
Un homme nouveau.
Connaissance, conscience artificielle dans la nature qui rend l'espèce humanité obsolète. Mais qui fait ça, l'espèce humaine? Et pour la première fois dans l'histoire de science, je crois, de technologie, c'est une question. Nous avons, comme des humains, la possibilité de faire ça, faire autre chose, mais faire ça ou non, pour le reste de l'histoire de science et culture, si c'est possible, nous faire ça. Mais après, maintenant, je crois, c'est quelque, peut-être sera quelques technologies qui, c'est nécessaire, on dit, non, pourquoi faire ça? Pourquoi faire notre inhérito post-humain? Pourquoi? Si nous avons le pouvoir de préventer ça, pourquoi faire ça? Même avec la bombe atomique. Et à mon avis, ça aussi, c'est une évolution morale qui était dans le dernier 12 siècles. En avance de ça, le slave, c'est normal. L'idée de la femme comme Chattal, ça c'est normal. L'idée de nous sommes les gardiens de la biosphère n'existait pas. Et maintenant, tout ça est un tranche, est un processus de changer, une évolution morale. Et finalement, nous sommes maintenant le maître, le petit dieu de l'évolution et de la biosphère. Nous a transcendé la biosphère lui-même et le processus même darwinien naturel. Et nous sommes les idiots qui étaient en charge de l'asylum et le choix, c'est nous. Et c'est nécessaire maintenant en évolution morale. Adolf Hitler, le nazi avant le gaz, le nerve gas, un poison très, 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 très mauvais, il ne utilisait pas Hitler. Parce qu'à un certain niveau, même pour un mec comme ça, c'est non, on ne fait pas ça. On perdu la guerre, mais ne fait pas ça. En Vietnam, en la guerre de Corée, à chaque moment, les États-Unis avant la possibilité de faire la destruction de tout son ennemi. L'Union soviétique a disparu avec la bombe atomique, on fait rien de tout parce que c'est un niveau moral qui dépasse, en un sens absolu, la possibilité de la puissance et le pouvoir de science.
Roland, vous, pour être son traducteur, vous partagez l'optimisme de Norman sur ce côté. Ils ont tous été plus ou moins moraux, alors que quand même l'agent orange, le cyclone B, la bombe atomique, même.
Sur la bombe atomique, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est que ce n'est pas une question de morale, c'est une question de trouille. Ce que je veux dire, c'est que prenez quelqu'un qui a une super arme et qui sait que s'il la balance, il va se débarrasser de son adversaire. Mais le problème, c'est que l'adversaire, il a la même super-arme et il va la lui refoutre sur la gueule. C'est ce qu'on appelait pendant très longtemps l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide. Personne n'osait...
Et c'est moral.
Oui, mais
personne osait envoyer, je ne sais pas si c'est moral, mais personne osait tirer le premier parce qu'il savait qu'il s'en prendrait plein la gueule. Il y a eu un film qui s'appelait Docteur Folamour de Stanley Kubrick, que j'espère que vous avez vu, et qui est quand même absolument excellent sur ce thème. Mais on a découvert un truc depuis, c'est que, a priori, l'URSS n'avait jamais eu la moindre intention de balancer des bombes nucléaires sur l'Occident. Alors qu'on a vécu quand même pendant 30 ou 40 ans dans cette idée-là. Et qu'aux États-Unis, ça a été, ou en Suisse aussi, ça a été pris très très au sérieux, au point qu'on fabrique des abris et des trucs comme ça. Alors peut-être que de cette situation, il y a des choses morales qui ont été tirées. Oui. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, à la base, c'est la peur qui a fonctionné. Et ça m'attriste un peu de dire que quand on veut éviter que les gens, les gens ravagent tout, on est obligé de leur faire peur, apparemment. Voilà.
C'est peut-être pour ça qu'on nous fait peur sur plein de sujets en ce moment. Et en tous les cas, à l'inverse de la colère, la peur, au moins, semble être bonne conseillère. C'est un peu peut-être la conclusion qu'il faut qu'on en tire, parce qu'en tous les cas, il faut que je tire une conclusion. Pardonnez-moi, j'aurais voulu vous donner la parole, mais ils avaient beaucoup de choses à dire. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.